24. Hodges et Janet sont conduits dans une pièce contiguë au hall d'entrée de l'hôpital où l'utilisation du portable est autorisée. Là, ils se partagent les dispositions funéraires. Hodges se charge de contacter l'entreprise de pompes funèbres, Soames, la même qui s'est occupée des obsèques d'Olivia Trelawney, et de s'assurer que l'hôpital sera prêt à remettre le corps au moment où le corbillard arrivera. Janet, maniant son iPad avec une efficacité toute naturelle que Hodges lui envie, télécharge un formulaire nécrologique sur le site du journal de la ville. Elle le complète rapidement, se parlant de temps en temps à elle-même à voix basse. Hodges l'entend murmurer la phrase « Pas de fleurs, mais des dons aux œuvres ». Quand elle reçoit un email de confirmation, elle sort le carnet d'adresse de sa mère de son sac et commence à téléphoner aux amis peu nombreux de la vieille dame. Elle est chaleureuse avec eux, et calme, mais rapide. Sa voix ne faiblit qu'une seule fois. Quand elle parle à Althea Green, l'infirmière et dame de compagnie de sa mère presque 10 années durant. À 18h, à peu près l'heure où Brady arrive chez lui pour trouver sa mère en train d'apporter la touche finale à sa salade de thon, la plupart des points sur les i sont mis. À 18h50, le corbillard, une Cadillac blanche, franchit l'entrée de l'hôpital, le contourne et va se garer à l'arrière. Les gars à l'intérieur s'avouent aller. Ils sont déjà venus ici plein de fois. Janet regarde Hodges. Elle a le visage blême et la bouche tremblante. Je suis pas sûr de pouvoir. Je m'en occupe. La transaction ressemble à n'importe quelle autre transaction. Vraiment. Il donne à l'entrepreneur des pompes funèbres et son assistant un certificat de décès. Il lui donne un reçu. Il se dit, je pourrais tout aussi bien être en train d'acheter une voiture. Quand il revient vers l'entrée de l'hôpital, il aperçoit Janet dehors, assise sur la même ambulance qu'avant. Il s'assoit à côté d'elle et lui prend la main. Elle lui presse fort les doigts. Il regarde le corbillard blanc s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis il l'emmène à sa voiture et il couvre les deux pâtés de maison qui les séparent de l'hôtel. Henry C. Royce, un gros homme à la poignée de main moite, arrive à 20h. Charlotte Gibney arrive 1 heure plus tard, faisant signe à un groom surchargé d'avancer tout en se plaignant de l'horrible service sur son vol. « Et les bébés qui n'arrêtent pas de pleurer, » dit-elle, « je ne vous raconte pas. » Mais elle leur raconte quand même. Elle est aussi maigre que son frère est gros, et lorgne Hodges d'un œil larmoyant et suspicieux. Tapis derrière tante Charlotte se tient sa fille, Holly, une vieille fille à peu près du même âge que Janet, mais sans aucun des attraits de Janet. Holly Gibney marmonne plus qu'elle ne parle, et semble avoir des difficultés à regarder les gens dans les yeux. « Je veux voir Betty, » annonce tante Charlotte après une brève et froide accolade à sa nièce. C'est comme si elle s'imaginait que Mrs. Wharton reposait dans le hall d'entrée de l'hôtel, des lys autour de sa tête et des œillets à ses pieds. Janet explique que le corps a déjà été transféré aux pompes funèbres Soames, en centre-ville, où Elizabeth Wharton sera incinérée mercredi après-midi, après la présentation du corps mardi et une brève cérémonie d'hommage à la défunte mercredi matin. « Mais c'est barbare, l'incinération !» lâche oncle Henry. Tout ce que ces deux-là ont à dire ressemble à des proclamations. « C'est ce qu'elle voulait !» Janet parle calmement, poliment, mais Hodges voit son visage commencer à s'empourprer. Il se dit qu'il va peut-être y avoir conflit, qu'ils vont exiger de voir un quelconque document écrit attestant du choix de la défunte pour l'incinération. Mais non, il ne bronche pas. Peut-être qu'il repense aux millions que Janet a hérités de sa sœur, de l'argent qu'il revient à Janet de partager. Ou pas. Oncle Henry et tante Charlotte doivent peut-être même penser à toutes ces visites qu'ils n'ont pas rendues à leur sœur aînée durant ces dernières années de souffrance. Les seules visites que Mrs. Wharton recevait étaient celles d'Olivia, que tante Charlotte n'appelle jamais par son prénom, mais uniquement « la fille à problème ». Et bien sûr, c'était Janet, encore sous le coup d'années de violence conjugale et d'un divorce houleux, qui avait été là pour elle sur la fin. Tous les cinq vont dîner un peu tardivement au restaurant de l'Holiday Inn, où ils sont presque les derniers convives. Dans les haut-parleurs, Herb Alpert fait sonner sa trompette. Tante Charlotte prend une salade et trouve le moyen de se plaindre de l'assaisonnement, dont elle a exigé qu'il lui soit servi séparément. « Ils peuvent toujours la servir dans un saucier. Ça reste de la sauce en bouteille du supermarché, » déclare-t-elle. Sa fille bredouillante commande un Schieberger Binky, ce qui s'avère être un cheeseburger bien cuit. Oncle Henry opte pour des fettuccini Alfredo et les aspire avec l'efficacité d'un puissant Hoover, de fines gouttelettes de transpiration perlant sur son front alors qu'il approche de la ligne d'arrivée. Puis il sauce le fond de son assiette avec un morceau de pain beurré. C'est Hodges qui fait la conversation, racontant les anecdotes de ses années passées chez Vigilant Guard. Le job est fictif, mais les histoires sont pour la plupart vraies, adaptées de ses années de service dans la police. Il leur raconte la fois où un cambrioleur s'est fait pincer alors qu'il essayait de se faufiler par la fenêtre d'une cave et comment il avait perdu son pantalon en voulant se dégager. Ça lui vaut un léger sourire de la part de Holly. Le gamin de 12 ans, caché derrière la porte de sa chambre, qui avait mis KO un cambrioleur avec sa batte de baseball. La femme de ménage, qui avait caché les bijoux de son employeur dans ses sous-vêtements et tout fait tomber pendant qu'elle servait le dîner. Il y a d'autres histoires plus sordides, plein d'autres, mais Hodges préfère les garder pour lui. Au moment du dessert, que Hodges décline, la gloutonnerie sans complexe d'oncle Henry servant de repoussoir inquiétant, Janet les invite à séjourner dans la maison de Sugar Heights à partir du lendemain. Puis les trois nouveaux venus s'en retournent vers leur chambre prépayée. Charlotte et Henry semblent réconfortés à l'idée d'examiner de près la façon dont vivent les nantis. Quant à Holly, qui sait ? Leurs chambres sont au rez-de-chaussée. Janet et Hodges sont au deuxième étage. Quand ils arrivent devant leurs deux portes voisines, Janet lui demande de passer la nuit avec elle. « Pas de sexe, » dit-elle. « Je me suis jamais sentie aussi peu sexy de toute ma vie. C'est juste que j'ai pas envie de rester toute seule. » Pas de problème pour Hodges. De toute façon, il doute de pouvoir se mettre en train. Il a les abdos et les muscles des jambes encore douloureux de la nuit dernière, et il se souvient que c'est elle qui a fait tout le travail. Une fois sous les draps, elle se blottit contre lui. Il n'en revient pas de la chaleur qu'elle dégage et de la fermeté de son corps, de sa présence. C'est vrai qu'il ne ressent aucun désir à l'instant présent, mais il est content que la vieille dame ait eu la courtoisie de casser sa pipe après que sa fille s'est occupée de lui, plutôt qu'avant. Pas très gentil pour elle, mais vrai. Corinne, son ex, disait que les hommes naissent avec la trique. Janet cale sa tête dans le creux de son épaule. « Je suis tellement contente que tu sois là. »« Moi aussi. C'est la vérité vraie. »« Est-ce que tu crois qu'ils savent qu'on est au lit tous les deux ?» Hodges réfléchit à la question. « Tante Charlotte sait, mais elle le saurait même si c'était pas le cas. »« Et tu sais ça parce que t'es un bon... »« C'est ça. Allez, dors, Janet. » Ce qu'elle fait. Mais quand il se réveille en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes, elle est assise près de la fenêtre, le regard perdu dans le parking et pleurant. Il pose une main sur son épaule. Elle lève la tête. « Je t'ai réveillé. Je suis désolé. »«
Non, c'est mon pipi de 3 heures du mat. Ça va, toi ?»«
Oui. Ouais. »
Elle sourit, puis s'essuie les yeux avec les poings comme une enfant.
« C'est juste que je me déteste pour avoir envoyé maman à Beau Soleil. »«
Mais tu m'as dit qu'elle voulait y aller. »
Oui, elle voulait, mais ça change pas ce que je ressens.
Janet le regarde, les yeux tristes et brillants de larmes.
Je me déteste aussi pour avoir laissé Olivia faire le plus dur pendant que j'étais en Californie.
En tant que bon détective, j'en déduis que tu étais en train d'essayer de sauver ton mariage.
Elle sourit faiblement. T'es quelqu'un de bien, Bill. Allez, va faire pipi.
Quand il revient de la salle de bain, elle est roulée en boule dans le lit. Il passe ses bras autour d'elle et ils dorment ainsi le restant de la nuit.